Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique, les chroniques de Philomène pour RLP Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marie-Yvonne Giraud, qui a fait le rallye des gazelles. Elle va nous en dire plus. Qu'est-ce que c'est, Kekaiko ? Et nous aurons Josette Chuté, qui est avec nous aussi, qui est l'amie de Marie-Yvonne Giraud, qui sera là avec nous aussi pour nous accompagner. Aline Benazé est avec nous aussi également, qui m'interviewera. Et oui, c'est Fanny, votre animatrice, qui sera interviewée sur mon tour du monde effectué en 2007, pendant 6 mois, quand j'avais 19 ans. Aujourd'hui, de quoi nous parlons ? Nous parlons de moments extraordinaires, exceptionnels de notre vie, de ces petites choses que nous avons osé faire quand nous étions jeunes, ou peut-être moins jeunes. Alors Marie-Yvonne, pourriez-vous nous parler de ce rallye des gazelles ? Quel âge vous aviez quand vous avez osé faire ce rallye des gazelles ?
J'avais 50 ans.
Wow.
J'étais à la veille des 50 ans quand j'ai pris la décision. Alors par contre, je me permets de préciser que c'est le rallye Aïcha des gazelles.
Oui, c'est vrai.
C'est important pour l'organisation. Et voilà, oui, donc j'avais 50 ans et je me suis lancée dans cette aventure tout à fait par hasard, par des rencontres qui se sont faites. Et bah, tout de suite, on a la réaction de dire non, pourquoi ? Non, non, moi je ne veux pas le faire, pas moi. Et pourquoi pas moi ? Et en fait, voilà, j'ai osé.
Vous avez osé, c'est magnifique. Et donc, pour les auditeurs, donc, le rallye Aïcha des gazelles, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Alors, le rallye Aïcha des gazelles est donc un rallye raid, bien sûr, qui est exclusivement féminin. Donc, c'est quand même déjà sa spécialité. Et c'est de la navigation pure. Donc, on nous donne des cartes bon, chaque matin. C'est à nous de faire les longitudes, les latitudes, de tout étudier. Et nous avons donc pour cela surtout pas de GPS, puisque de toute façon, dans la région où nous sommes, il n'y a pas de réseau. Et nous avons donc un crayon, une règle cras et surtout une gomme. Et voilà, et nous partons à l'aventure. Donc, c'est une aventure quand même bien particulière, qui nous permet d'abord de nous dépasser, de découvrir la solidarité, parce qu'entre toutes les gazelles, il y a vraiment une belle solidarité. Et c'est une aventure réellement extraordinaire, hors du commun.
Hmm.
Hors du commun.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes préparé ? Vous parlez de règles, de gomme, de... pas de GPS, de boussole. Comment on aborde ? Il y a toute une préparation déjà,
ah oui.
Mentale, psychologique, physique.
Oui.
Racontez-nous.
Alors déjà, sur le plan mental, j'ose dire que quand on prend la décision de faire le rallye des gazelles, qui se déroule toujours en principe mars-avril, bah, on démarre un an avant, puisque l'aventure commence avec la recherche des sponsors. Sans sponsor, on ne peut pas partir. Enfin, à moins qu'on se fasse un crédit soi-même. On cherche des sponsors et on cherche à faire la publicité donc de sociétés, de groupes, voilà. Donc déjà, il faut se préparer psychologiquement à aborder des questions qui sont toujours difficiles à poser. C'est pas demander de l'argent, c'est proposer de faire la publicité de l'entreprise. Et voilà, donc c'est déjà une belle aventure humaine. Et ensuite, pour se préparer, nous avons... à peu près 2 mois avant, nous avons un stage de formation, bien sûr, qui est obligatoire, puisque non seulement il faut apprendre à piloter, donc on est invité sur un certain site hein, qui s'y prête, et puis il y a surtout la navigation, ça c'est indispensable. Donc avec la règle CRA, on apprend à calculer les longitudes, les latitudes, les, voilà.
Et vous faites un stage pour ça, alors
ah,
vous
oui,
faites vraiment
obligé.
Une formation pour oui. vous préparer,
oui.
qui est financée par les sponsors. Comment ça se passe ?
Non, cette formation est organisée par l'organisateur, hein, par la société Mayanga, qui est l'organisateur de ce rallye.
Oui.
C'est organisé par eux-mêmes et ça se passe sur un week-end.
D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est accessible, j'ai envie de dire, à toutes. C'est un rallye 100% féminin. On est bien d'accord avec ça.
Oui.
Et tout le monde peut... je veux dire, vous n'étiez pas une athlète au niveau, vous n'étiez pas...
Non, pas du tout. La seule chose, il faut avoir son permis de conduire. Hein. Voilà.
D'accord.
Mais autrement, non, il ne faut pas... Alors, il faut être quand même physiquement, il faut être quand même bien hein, dans sa tête, mais dans sa peau aussi, parce que c'est quand même une épreuve, c'est quand même pas évident.
D'accord.
Donc on découvre ça au fil du temps, dès que le rallye se déroule, parce qu'on est comme des fois dans des situations un peu difficiles. Il faut savoir qu'il y a toujours une assistance, mais si on appelle l'assistance, on a des points de pénalité.
Ah, d'accord. Allez, parlez-nous un petit peu des galères. Après, on parlera des bons moments. Mais qu'est-ce que vous avez eu de croustillant à nous raconter où vous étiez vraiment
Alors,
dans la panade, où vous vous êtes dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Peut-être que ça vous est arrivé.
Oui. Je me rappelle d'une fois, parce qu'il y en a beaucoup, mais je me rappelle d'une fois où je faisais le rallye avec ma fille. C'est ma fille qui avait voulu le refaire avec moi. Donc, nous étions partis et c'était la fin du rallye. C'était dans les dernières étapes. Et il y avait une tempête de sable, donc dans un désert très rocailleux et sableux, bien sûr. Donc, c'était pas très agréable. Et nous avons crevé.
Oh
donc,
là là.
C'était pas la première fois, donc c'était pas grave. Mais enfin, bon, on était dans un contexte un peu difficile. Donc, on a mis le cric, etc.
Les superwomen qui dépannent la
Et la voiture. Ah, ben, on est obligé, oui, de toute façon. Mais la voiture, le cric n'a pas tenu. Il y a eu une rafale de vent qui a fait trembler la voiture et la voiture s'est renversée.
Oh
et nous nous sommes débrouillés. Alors, il y a un équipage qui nous a aidés. Et nous avons réussi à remettre le cric, nous avons réussi à reconsolider tout ça, à changer la roue.
Ah oui, d'accord.
Mais voilà, mais ça a été quand même une épreuve, je me rappelle particulièrement de celle-ci. Autrement, oui.
Oui, c'est éprouvant, j'imagine, dans ces moments-là.
Ah oui.
Rappelez-nous juste, c'est combien de kilomètres le rallye?
Ah, alors, par jour, on en fait à peu près 200, enfin, on doit être à 2000-2500 kilomètres sur les 9 jours où le rallye... se déroule.
Mmh.
Et donc tous les matins, nous nous levons à 4h du matin, nous sommes réveillés à 4h du matin. À 5h, nous avons le briefing. On nous donne les cartes sur lesquelles il faut travailler. Et à 6h, il y a le départ. Donc tout ça au milieu, il y a le petit déjeuner, il faut plier la tente, parce qu'on ne part jamais sans sa tente, car le soir, on ne sait pas où on est. Et si on n'a pas le temps de rentrer au bivouac, on reste là où on est, en plein désert. Et on descend de voiture et on monte notre tente.
Ça vous est arrivé, vous, personnellement,
ah oui.
Marie-Yvonne?
Ah oui.
Oui.
Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et une fois, nous étions avec des Canadiennes qui arrivaient vers nous, bon, qui étaient apeurées et qui ont dit, bon, on ne peut pas rester là. Et on a dit, oui, ben non, on reste là. On ne peut pas aller plus loin. C'est trop scabreux. On voyait sur la carte que le terrain n'était pas bon. Et c'est la première fois qu'elles le faisaient. C'est très, 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 très inquiète. Mais non, après, bon, voilà, on s'adapte.
Oui, j'imagine, c'est
ah oui.
Une des principales qualités, l'adaptation pour être une gazelle.
Obligé. Obligé.
Et alors, parlez-nous de ces meilleurs moments, alors.
Les meilleurs moments, c'est lorsque vous trouvez les balises, puisque donc, nous allons d'étape en étape. Nous avons un certain nombre de balises à découvrir donc, dans la journée. Et chaque fois que l'on découvre une balise,
C'est Noël.
Oui, voilà. C'est une joie extraordinaire. Ce sont des cris dans la voiture, des fois des pleurs, mais de joie.
Je vous imagine bien chialer en plein désert.
Ah, mais oui, parce qu'on ne pensait pas la trouver, par exemple. On a quand même des épreuves assez difficiles, donc voilà. Mais tout est surmontable, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on découvre, que rien n'est impossible. Mmh. On comprend que, voilà, que nous sommes en plein dépassement de soi. C'est très enrichissant quand même.
Ah, mais j'imagine pour la confiance en soi, pour l'estime, tout ça doit être hyper renforçant, excellent.
Oui,
génial.
Oui.
Est-ce que vous avez une question, Madame Chuté, Madame Benazé, pour Marie-Yvonne?
Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses après votre épreuve, enfin votre...
Oui.
Moralement, même physiquement.
Oui, oui.
Même amicalement, peut-être. Vous avez
alors, déjà amicalement, oui, ça, de toute façon. Et puis, on sort de ce genre d'épreuve, on en ressort grandi, de toute façon. Et en plus, on fait toujours des actions au cours du rallye. Par exemple, avant de partir, nous avons toutes, à l'époque, nous signions une charte pour que le désert reste propre. Donc, au fil de nos kilomètres, quand on voyait un vieux pneu, quand on voyait une bouteille plastique, malheureusement, on en voyait beaucoup, on les ramassait. On les ramassait, on rapportait ça au bivouac. Il y avait tout un système de récupération et l'organisation elle-même étant en contact avec les autorités. Et donc, ça a énormément évolué, moi, depuis ma dernière participation. Là, en 2007, il faut savoir quand même que l'organisation a été nommée ISO 14001. Il y a des contrôles réguliers. Et chaque fois que le bivouac se déplace, le désert est propre. Et ça, c'est un engagement. Et depuis maintenant quelques années, je ne sais plus, je dirais des bêtises, mais depuis quelques années en tous les cas, le rallye est sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Et donc, dans le respect de l'engagement de chacune, on tient à ce que le désert reste propre et que nos voitures également n'abîment pas trop. Donc voilà.
C'est... Super.
Il y a même des voitures électriques maintenant.
Qui font le rallye ?
Oui, oui, elles ont un circuit particulier.
D'accord. Et
il y a, oui, oui, dans le cadre de la charte environnementale, c'est très, très, très suivi.
Très bien. Voilà. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que le désert vous a apporté ?
C'est magnifique. On prend conscience que nous ne sommes qu'un petit grain de sable, autant que tous les grains de sable qui nous entourent. Il n'y a rien, mais en fait, il y a tout. Voilà, nous sommes, oui, nous sommes dans
l'univers.
Dans l'univers, oui, vraiment. Oui. Ah oui, quand on est en plein désert, c'est une pure merveille.
J'imagine bien.
Oui. C'est vrai qu'il y a aussi le passage des dunes. Quand nous passons les dunes de Merzouga, on appréhende toujours, parce que là aussi, ce sont des galères. On s'en sable, il faut s'en sabler. Enfin bon. Mais chaque fois, on est content d'y retourner, parce que chaque fois, c'est des moments extraordinaires,
des moments
découvertes,
de magie.
Voilà, et là on va se dépasser pour.
Les couleurs, le ciel.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, non, le désert est magnifique.
Marie-Vonne, avais-tu des contacts avec les populations locales ?
Ah oui, 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 tout à fait. Alors, nous en avions, parce que d'abord, quand on est au milieu de nulle part, si on s'arrête pour changer un pneu qui crève ou autre chose, vous voyez d'abord des enfants. Vous ne savez pas d'où ils viennent, qui arrivent de partout, qui veulent vous aider. Donc, et en fait, ben, on a un partage avec eux. D'abord, on leur donne de l'eau, on fait des échanges, on leur donne des bonbons, mais surtout pas de crayons, parce qu'il y a quand même un accord avec les ministères marocains. Et donc, voilà, il ne faut pas les habituer, on va dire, à la mendicité. Donc maintenant, de ce côté-là, au Maroc, il n'y a plus ce genre de choses. Et donc, on les gâte, voilà. C'est une gâterie comme on ferait ailleurs. Donc, on a ce contact. Et en parallèle, alors ça me donne l'occasion de dire qu'en parallèle du rallye, il y a une caravane médicale, Cœur de Gazelle, et qui est vraiment parallèle, hein, ça suit, puisque le soir, tout le monde se retrouve au bivouac. Et là, il y a des médecins, des gynécologues, des ophtalmos, médecins généralistes, etc., des dentistes. Et nous allons donc dans des coins très, très, très reculés. Et les gens font des kilomètres à pied le matin parce qu'ils connaissent maintenant le principe de cette caravane et viennent consulter. Et une fois je l'ai fait, ça, la caravane médicale, c'est une émotion.
Vous avez participé à suivre, à être avec la caravane médicale.
Une année, je n'avais pas fait le rallye, j'étais donc dans la caravane médicale et là, alors, beaucoup d'émotions.
Mais vous êtes une fan, vous y êtes allée combien de fois au rallye Aïcha des Gazelles ?
Alors, le rallye, je l'ai fait 7 fois.
Cette fois, ah oui, avons, messieurs, dames, une professionnelle du rallye.
Dont 3 fois avec ma fille, qui a voulu le faire avec moi, et qui m'a dit, non, mais moi, c'est avec toi, condition sine qua non. Bon, d'accord. Et donc, nous sommes partis quand même 3 ans de suite ensemble.
Magnifique, voilà. C'est très beau.
Tu referais le rallye actuellement, si tu pouvais ?
J'aimerais, mais je ne peux plus. Non, non, j'aimerais beaucoup. Je ne peux plus. Là, maintenant, 27 ans... J'ai 27 ans plus 50 ans d'expérience. Ça fait beaucoup pour partir au rallye. Non, puis c'est trop éprouvant. Il faut savoir que c'est éprouvant.
D'accord.
Il faut savoir que c'est éprouvant. Oui, c'est particulier. Cela étant, je ne voudrais pas décourager les personnes qui nous écoutent et surtout dire que toutes les jeunes femmes, à partir de 18-19 ans et jusqu'à les 65 ans, même 70, pourquoi pas, si elles pouvaient vivre cette aventure, vraiment, je le leur souhaite.
Très bien.
Parce que c'est une très, très belle aventure.
Merci, Marie-Yvonne.
Ben, merci à vous de m'avoir permis de parler des gazelles.
Avec plaisir.
Et gazelle un jour, gazelle toujours.
Mais écoutez, on va poursuivre cette chronique avec moi-même. Je vais vous raconter, je vais répondre aux questions de Madame Vénazé, Aline, si vous voulez bien, pour vous parler donc d'un passage de ma vie aussi qui a été hors du commun. Parce que cette chronique, nous la voulions pour cette fin d'année, on voulait parler des rêves, on voulait parler de ce qui nous anime, on voulait parler du fait d'oser, de ne pas avoir peur de réaliser ce qui nous, ce qui nous fait vibrer. Comme Marie-Yvonne, vous avez osé franchir le cap et un jour y aller, vous y êtes retournée 7 fois au rallye. Donc ça veut dire que c'était vraiment une aventure extraordinaire. Alors, je n'ai pas fait 7 tours du monde, j'en ai fait qu'un, mais Madame Benazé va en apprendre un petit peu plus à ce sujet.
Oui. Au départ, j'ai cru que c'était une plaisanterie quand vous m'en avez parlé ce matin.
D'accord.
Mais en fait, non, c'est très sérieux. Et quel âge avez-vous? Et pourquoi ce tour du monde et avec qui?
Eh bien oui, alors j'avais 19 ans. Je sortais du nid. J'avais besoin, un grand besoin de bol d'air, un grand besoin de découverte et...
De liberté.
Et de liberté, exactement. Je suis partie, je suis allée travailler 1 an sur Bordeaux pour mettre de l'argent de côté. Et je suis partie avec mon amoureux de l'époque, avec Toby, on est partis tous les deux. On est partis, Toby était dans l'immobilier, il achetait des appartements, et il les relouait. Et moi j'étais serveuse dans Bordeaux, dans le quartier Saint-Pierre. Et un jour on habitait ensemble dans le quartier Saint-Pierre de Bordeaux et je lui dis, au début il me disait si on... Alors lui, il adorait acheter des choses. Il me disait, si on s'achetait une île au Canada. Je dis, oui, bon, une île au Canada, bon. Et puis moi, je lui dis, mais pourquoi on ne ferait pas un tour du monde? Je me souviens, je l'avais accueilli dans notre appartement. J'avais mis un grand planisphère comme il y a dans le studio radio, là. Et j'avais mis plein de petits post-it d'endroits où nous irions. Et j'avais acheté aussi un globe. Enfin, voilà, je lui avais mis plein de signes. J'ai dit, devine ce qu'on va faire. Et puis, donc, du coup, il m'a dit, oui, on va faire le tour du monde. Et puis, ben, quelques mois après, c'était, je crois, en avril. Et puis, au mois d'octobre, nous étions partis. Nous sommes partis en 2007.
Sac à dos,
billets d'avion en poche.
Chaussures de marche.
Ah oui, j'en avais acheté. J'avais acheté des grolles, des belles chaussures de marche à 100 euros dans une boutique exprès et tout. J'ai mis que mes claquettes que j'ai achetées en Inde. 3 roupies, j'ai mis ça tout le long. Elles m'ont lâché à Londres sur le changement d'avion. Je dis, ah ben c'est que c'est la fin du tour du monde. On rentrait. J'étais malade. J'avais pas été malade en 6 mois. J'ai pas été une seule fois malade. Bref, et là sur le chemin du retour, je chope la tourista au Pérou. Et mes claquettes clash. J'avais mon gros sac à dos. Je galérais pour changer d'avion. Et puis voilà. Et puis retour à Paris, Montmartre, où on avait un hôtel qui nous attendait.
Voilà. Le premier pays?
Premier pays, l'Inde.
Ah.
Oui, j'ai commencé fort.
Oui, oui, oui.
Avec le recul, maintenant j'ai 38 ans, donc 20 ans plus tard, 19 ans plus tard, je me dis, waouh, Fanny, quand même, t'es pas allée de main morte. Inde, c'était Madras. Après, on est monté jusqu'à Calcutta récupérer un autre avion. Donc, on s'est fait toute la mangrove du Bengale, dans des cales de bateaux à dormir tous les deux, parce qu'on voulait pas dormir avec tout le monde, on voulait dormir à un amoureux. On était contre des moteurs de bateaux pour être tous les deux serrés sur des lits qui faisaient 60 cm de large, même pas, enfin bon... C'était rigolo.
Oui. Bon, enfin, pays vraiment extraordinaire.
Oui, de contraste, pour une jeune fille de mon âge qui n'avait jamais été confrontée à la mort, de voir des morts passer dans la rue, des gens voler à Calcutta parce qu'ils ont des accidents. Tout le monde qui continue le cours de sa vie, rien n'arrête, même la mort, rien ne peut arrêter le quotidien des gens. Des gens avec un cœur sur la main, des amours.
Oui.
Enfin, des rencontres bourrées de contrastes qui étaient complètement hallucinantes pour la petite femme que j'étais. Je sortais du lycée.
Deuxième pays.
Alors là, la Birmanie. Ah. J'arrive en Birmanie. Donc le pays commence à s'ouvrir. Il y a la junte militaire. Enfin, vous connaissez la situation birmane. J'arrive là-bas. Déjà, j'arrive de nuit. Je décide de prendre un bus et là, je vois des enfants, des adultes crachés dans des poches plastiques, de la salive rouge. Partout, ces poches plastiques sont accrochées dans le bus. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est Kaiko, ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont tous? J'ai l'impression que je suis arrivée dans un pays où il y a une rage de dents nationale. J'ai peur. Finalement, en plein jour, je découvre par un tchoup-tchoup, quelqu'un qui fait du tchoup. Enfin, vous savez, là, les pousse-pousse.
Les petites Vespa.
Voilà, exactement. En fait, ils mangeaient de la noix de coco qui faisait une salive rouge très foncée et qui était comme une drogue pour eux. Mais moi, j'ai eu peur toute la nuit dans ce bus, jusqu'à ce que j'arrive le lendemain à Mandalay, la préfecture de la Birmanie, car nous voulions aller voir les temples à Rangoon, un des plus gros sites archéologiques d'Asie, où il y a des temples qui s'appellent les Étis. Et il y en a plus de 50, enfin, il y en avait plus de 50 000 à la ronde, maintenant il n'y en a plus que 20 000 sur ce site qui s'appelle Bagan. C'est quand même énorme. Donc on s'est retrouvés avec Toby dans cet endroit archéologique magnifique. Et d'ailleurs, j'ai pris une pirogue et c'est la première fois que j'ai rencontré des personnes, des femmes qui n'avaient jamais vu de blanche. Alors là, Tanaka, elle voulait me mettre de la noix de coco sur les joues, Tanaka. Et puis elle me regardait comme si j'étais Adriana Carambeu. J'avais l'impression d'avoir pris du galon alors que bon, j'étais juste petite, brune. Enfin, pour un Français, une caucasienne tout à fait normale, mais pour elle, c'était, j'étais la septième merveille du monde. Et ça aussi, cette rencontre avec ces femmes et avec ce peuple qui, avec ces femmes qui n'avaient jamais vu de blanche. Donc il y a eu tout un rapport un peu timide, un peu pudique entre nous, parce que moi je l'ai trouvée magnifique, et elle me trouvait magnifique. Alors on osait se regarder, et on se dévorait du regard, enfin c'était très, très, très étrange et rigolo comme situation. Et puis ce peuple qui a une joie de vivre parce qu'il n'a pas le choix, mais une mélancolie dans le cœur parce qu'il ne peut pas sortir de son pays. Il y avait quelque chose, c'est juste la première fois que j'allais dans un pays où il y a une dictature, donc c'était très touchant. C'était un pays qui m'a énormément marqué.
Oui, puis la capitale qu'ils ont créée, où il n'y a personne. Je ne sais pas si à l'époque vous aviez vu ça.
Alors Rangoon était quand même habité quand j'y suis passée.
Oui, mais ils avaient créé une capitale.
Oui, Mandalay.
Et il n'y avait personne. Enfin, il y avait des autoroutes, il n'y avait pas de magasins, tout était vide.
C'est très spécial.
Et parce qu'ils écoutent beaucoup des gens qui leur donnent des... Je ne sais pas comment m'expliquer.
Chef spirituel.
Oui, c'est ça, spirituel. Ils écoutent beaucoup de choses comme ça. Et le chef de l'État de l'époque avait décidé, c'était l'armée, qu'il fallait que ça soit là. Donc, vraiment, mais des gens très attachants aussi.
Oui, c'est ça.
Un
très beau peuple.
Après,
Thaïlande, là, j'ai fait que de la plongée. Je suis allée voir les dauphins, les requins même. J'ai vu des, enfin voilà, je me suis payée 15 jours. Je crois que oui, j'avais besoin de farniente et de braver une peur de l'océan. Là, ça a été l'occasion de voilà d'aller un petit peu confronter ma peur des profondeurs. À Noël, j'étais sous 30 mètres de profondeur. Et je disais joyeux Noël à tous les poissons parce que j'étais shootée au truc des profondeurs, là. Vous savez, il y a une ivresse un peu.
Ça,
je disais joyeux Noël. C'est complètement... Et voilà. Et puis après, ça a été Singapour, le nouvel an à Singapour. Ça a été Singapour où là, c'était une vie plus stricte, plus rigide. Mmh. Et je commençais à voir, c'était en 2007, j'ai commencé à voir ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes, les gens, tout le monde avec leur téléphone portable, avec leur tablette, qui se parlent très peu, peu de lecture journal. Enfin, je vois ce qui se passe. Ils avaient un peu d'avance, quoi. Mais ce qui se passe plus aujourd'hui, c'est rigolo.
Est-ce que vous aviez toujours des contacts avec votre famille ?
Alors oui, ma mère a même appelé l'ambassade. Il faut que je vous raconte. Je lui dis, maman, ne t'inquiète pas, je passe à Bali. À Bali, il y a très peu d'internet, d'endroits, de points internet. Ne t'inquiète pas. Malheureusement, il y avait eu un crash d'un avion la veille du mien. Elle ne savait pas trop nos jours de départ. Et quand je suis arrivée en Australie, comment ça s'est passé ? Il y a l'ambassade qui m'a appelée. Parce que j'avais un portable et j'ai l'ambassade qui m'a appelée en me disant « Votre mère vous cherche partout, elle s'inquiète. » J'ai eu la frousse de ma vie, je me suis dit « Mais c'est pas possible. »
Qu'est-ce qui se passe ?
Maman, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, mais pourquoi ? C'est le crash de l'avion.
On l'a jamais retrouvé.
Mais moi, ça allait, ben oui, parce que sinon je serais pas là pour vous parler. Mais c'est vrai que donc maman avait souvent des contacts avec nous. Mais là, quand elle n'en a pas eu, tout de suite, elle s'est inquiétée. C'est un peu normal
c'est
aussi.
C'est légitime,
hein.
Oui.
Je suis maman maintenant. Laisser ma fille partir à l'autre bout de la planète, ça fait peur. Hein.
Mm-hmm. Et après l'Australie ?
Alors après l'Australie, après il y a eu la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment des très beaux pays. L'Australie, ce qui était super, c'est que j'ai rencontré Pino. J'ai fait une belle rencontre à Bali. Un monsieur journaliste qui était justement allé dans le Triangle d'Or là, pendant les guerres birmanes. On en avait beaucoup parlé ensemble. Parce que bah, pendant mon voyage, je lisais Noam Chomsky, j'étais sur la politique internationale, je m'intéressais à là où j'étais. Et du coup, on s'était liés d'amitié parce qu'on avait des atomes crochus sur la politique. Et puis il me dit « Fanny, si tu veux, tu viens chez moi ». J'ai dit, ah oui, t'habites à Sydney parce que je passe par Sydney. Il fait, yeah, yeah, I live in Sydney, j'habite à Sydney, donc t'inquiète pas. Et là, moi, je débarque avec mon petit copain à l'aéroport. J'appelle au numéro où il me dit d'appeler. Et c'était son coloc qui n'était pas du tout au courant ni d'Adam ni d'Ève qu'on vienne. Et finalement, on est resté 15 jours chez lui. Il nous a hébergés parce qu'on était bien. Il était content de nous voir. Ça se passait super bien. J'ai dit, bon, ben, on va rester. Parce qu'après, il fallait... notre tour du monde, en fait, c'est un billet qui nous déposait quelque part. Il fallait qu'on prenne un avion ailleurs. Donc là, on est arrivé à Melbourne. Je montais à Sydney. Et fallait j'étais arrivée à Brisbane, Sydney. Et il fallait que je reparte par Melbourne pour aller après en Nouvelle-Zélande. Que d'aventures. Mais c'est vrai que... Quand on est dedans, je sais pas vous Marie-Yvonne, hein, quand on est dedans, quand on vit une aventure comme ça, un voyage, ou quand on est dans une aventure un peu extraordinaire, on s'en rend compte sans s'en rendre compte, on est dans le flot des événements, ouais. Et puis ça avance, et puis des fois, souvent, on a cette capacité, Dieu merci, j'ai cette capacité d'être en gratitude, et je m'arrête, et je dis, waouh, c'est trop génial. Mais c'est vrai que les événements... passe à une vitesse incroyable.
On est dans un autre monde, on est dans notre bulle, on va dire. Hein.
Oui.
On est dans notre bulle.
C'est ça, ça défile, et puis après coup, on se dit, oh, ouais, je l'ai fait, j'ai fait ça. Ou... C'est comme après, j'ai fait des voyages en stop qui sont juste extraordinaires, et sur le coup, j'avais juste envie de partir quelque part, et j'avais pas une thune, c'est tout. Voilà, donc voilà pour mon tour du monde. Après, il y a eu le Pérou, le Chili et le Pérou. Et après, on est rentré. L'Amérique latine. C'était un rêve pour moi d'aller en Amérique. Alors, on a fait juste un petit bout. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Mais c'était un rêve de fouler un peu ce continent, d'être dans le folklore péruvien, le folklore aussi chilien, d'être dans ce pays qui est aussi extraordinaire. Oui. Je voulais descendre en Patagonie. Et puis, mon ex de chérie, qui était entrepreneur dans l'âme, me dit « Fanny, on rentre. » Parce que ce tour du monde devait durer un an. Il a duré 6 mois. Il me dit « Fanny, on rentre parce que je veux acheter la maison de mes parents et je veux la retaper. » Il voulait construire, continuer ses projets, avancer dans ses projets. Et finalement, nous sommes rentrés plus court. On devait passer 6 mois. Et on a passé 2 mois en Amérique latine, on devait passer 6 mois. Mm-hmm. Mais c'était super.
Dans votre périple, oui. Vous n'aviez pas envie de faire sur le pôle Nord ou sur l'Antarctique?
Ben non. Non. C'était pas au programme des destinations. C'était une agence de voyage qui vendait des tours du monde comme ça. Et maintenant, j'aurais plus envie de grand froid. Ça pourrait me donner envie. Mais à l'époque, ça m'a pas passé à l'esprit, non, de monter aussi haut, aussi froid. Maintenant, le Canada, des pays comme ça, des destinations comme ça, l'Alaska, le Groenland, l'Islande, j'aimerais beaucoup aussi.
Quel est le pays qui vous a le plus plu, tout simplement, que vous avez préféré?
Mais je pense que c'est l'Inde. Je pense que c'est l'Inde, oui. C'est là où je reviendrai, les yeux fermés, peut-être montrer ça à ma petite fille, oui.
Et l'histoire d'amour dans tout ça?
Ah, l'amour. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Non, ça a bien fini, mais c'est de l'amitié maintenant.
Super.
C'est un beau souvenir.
Le retour n'a pas été trop difficile?
Eh bien, écoutez, non.
La réadaptation à la vie quotidienne?
Si, quand même. C'était bizarre, parce que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, et puis je revois mes oncles, mes tantes, ma famille, comme si on s'était vu la veille, et ils me parlaient du lapin qu'ils avaient bouffé la veille au repas, où moi je revenais d'un truc de dingue. C'est vrai que...
Mais avec un quotidien...
Il y avait un décalage, oui. Il y avait un décalage avec tous ceux qui avaient eu leur routine, et qui pour eux, 6 mois, c'était comme si c'était 2 mois. Donc oui, mais bon, la petite Fanny a dû passer le bac en candidat libre... que j'ai eu, Dieu merci, mamie m'a pas fâchée, parce que j'ai eu mon bac, et puis après j'ai pu monter mon entreprise, et puis continuer sur d'autres aventures, vu que j'avais des projets aussi. Je pense que c'est difficile quand on rentre et qu'on fait rien, Quand on arrête un rêve et qu'on retourne à la dure réalité, que parce qu'il n'y a pas de projet, mais moi j'avais des projets, j'ai ouvert mon café bouquinerie dans la foulée sur le thème du voyage. Donc je suis restée dans l'énergie de mon tour du monde. J'ai acheté des livres du monde entier, des Lonely Planet, j'ai acheté tous les guides du routard que je trouvais pour mon magasin. Donc j'étais encore dans mon tour du monde un petit peu, puis encore un peu avec tous ces gens que j'avais rencontrés.
Dans un nouveau rêve.
Dans un nouveau rêve, c'est ça. Mais c'est ça un peu la vie, on va de rêve en rêve en fait. Hein.
Mais quelle expérience quand même, pour une jeune femme,
oui, c'est, ça,
hein, c'est formidable.
Oui, c'est vrai, ça l'est. Je m'en rends compte maintenant. Oui, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte.
C'est une chance d'avoir pu le réaliser.
C'est exactement ça, c'est une vraie chance. Mm-hmm. Je ne réalisais pas à cette époque-là, mais quand on a une interstice dans la vie de pouvoir faire quelque chose, mais mon Dieu, il faut la saisir. Hein. Oui, c'est ça. Voilà.
Si on sait ça l'est, de toute façon, on n'a jamais le temps, ça n'est pas pour nous, ça n'est pas possible.
On n'a pas les moyens.
Alors que si vraiment on aime ce qui se présente, enfin le rêve qui va se présenter, si on arrive à le vivre, on arrive à le vivre et puis on se dépasse.
Et à composer avec.
Voilà, on se dépasse, ouais.
C'est ça. Bon, et pour 2025, on va souhaiter à tout le monde de se dépasser, alors.
Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour le Rallye des Gazelles ?
Bien sûr, Marie-Yves.
Parce que là, ça va être donc la 34e édition, tout de même, qui se déroule au mois d'avril, à partir du 17 avril, si je ne me trompe. Et le départ, comme l'année dernière, là maintenant, le départ officiel, va être donné par le prince de Monaco. Et ça se passe donc à Monaco. Donc il y a quand même un certain...
prestige.
Un certain prestige, voilà.
Très bien, super. Petit coup de pub et promo. Oui. Tous ceux qui ont envie de faire le Rallye des Gazelles.
Pour les copines qui un jour voudront le faire.
Génial. Bon, merci de nous avoir écoutés sur RLP. Merci à Radio Libre en Périgord. Merci à Aïda de nous avoir fait la technique. Merci à vous toutes, mesdames, pour cette interview, ce petit moment passé ensemble. Je vous souhaite à tous et tous, auditeurs, une très belle journée, fin de journée. Peu importe à quel moment vous nous écoutez, dans tous les cas, le meilleur pour vous. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.